carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Elles sont trois femmes écrivains, Gisèle Bienne, Mina Sif et Eugenia Almeida. Trois femmes de grands talents, d'origine et de générations différentes. Elles ont été admises parmi de nombreux postulants en résidence à la Villa Marguerite Yourcenar, la fameuse villa du Mont-Noir, non loin de Lille. Je vous propose de les écouter, touchantes l'une après l'autre, avant qu'Achmialé, le directeur, nous parle de cette demeure, perchée tout en haut des collines de Saint-Jean-Capels, qui vit passer l'enfance de Marguerite Yourcenar.
Je m'appelle Gisèle Bienne et j'ai toujours exploré les endroits là où je suis née, dans la maison de mon père, où nous n'avions pas trop le droit d'aller, c'est-à-dire les endroits chargés de mémoire, d'objets mystérieux qui étaient un peu relégués dans les greniers. Et j'ai eu la chance donc d'habiter une maison qui avait emmagasiné comme ça de la mémoire, avec aussi les histoires cachées, les non-dits de la famille. Parce que pour moi, je dirais quand même que l'écriture a à voir avec le secret.
Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici à la villa ?
Ça me touche énormément parce que c'est un lieu chargé d'histoire. D'abord, c'est un lieu magnifique. Le chemin qui m'a amenée là est très long. En 1991, j'étais aux États-Unis et j'étais sur l'île des Monts Déserts. Et je voyais la maison où avait travaillé Marguerite Yourcenar, la petite plaisance avec Grace Frick. Et je ne sais pas comment ça s'est fait, ce chemin en 91 des Monts Déserts jusqu'au Mont Noir. Mais il y a 2 ans, quand j'ai participé à un grand colloque à Ypres sur la Grande Guerre, sur les fictions de la Grande Guerre, parce que j'ai écrit 3 livres autour de la Grande Guerre, et qu'il y a une table ronde ici à laquelle aussi j'ai participé, que j'ai découvert le lieu. Je vous assure que ça a été un émerveillement. La villa prise dans cette nature qui est d'une force incroyable, avec la présence des arbres, avec le parc vallonné, avec la vue à l'horizon sur les villages, les étangs, puis la trace du passé. On se dit là, il y avait le château où elle a grandi. Si vous vous promenez à la nuit tombante, vous rencontrez des bêtes et vous vous dites qu'elles aussi les avaient rencontrées. Je me suis trouvée née à museau avec un chevreuil il y a 2 soirs. Il ne bougeait pas, il n'avait pas peur. J'ai découvert les jacinthes bleues que vous découvrez aujourd'hui, il y en a encore partout. Et elle disait dans un de ses textes, souvent avant de mourir, on dit qu'on revoit tout en un éclair. Marguerite Yourcenar disait ça. Et qu'est-ce que je reverrai avant de mourir? Et la première chose qu'elle énonce, c'est peut-être les jacinthes bleues du Mont Noir. Je suis là depuis 15 jours. J'ai été tellement absorbée par le lieu et l'endroit que je n'ai pas pu me lancer dans l'écriture d'un texte pour l'instant. Par contre, j'ai pu travailler quand même. J'ai pu relire et finir un texte, mais c'est très différent que de se lancer dans l'écriture. Je crois qu'en septembre, je pourrais davantage. C'est incroyable, on ne peut être que réceptif. Je travaille très bien dans la chambre. Et aussi, cette villa, elle est très intéressante pour les auteurs parce qu'elle est à vocation d'écriture. Mais nous, il y a aussi beaucoup d'échanges avec l'extérieur. J'ai rencontré des lycéens, des collégiens, des professeurs. Donc, nous sortons de la villa. Nous travaillons avec d'autres. Ce qui fait qu'aussi, nous ne sommes pas toujours dans la chambre d'écriture. La chambre d'Adrien que j'occupe est là à m'attendre et j'ai toujours évidemment hâte de la retrouver.
Dans une île perdue de l'océan, Marguerite écrit, Marguerite vit. Elle revient en France de temps en temps, porter l'habit vert du printemps. Dans une île nommée Mont Désert, Marguerite écrit son alchimie. Les archives du Nord, son pays, souvenir d'une archéologie.
se promène dans la villa, il y a le parc, mais tout autour, il y a des chemins dans les bois qui sont balisés, il y a des inscriptions d'elle. Et j'ai vu une très belle inscription sur les soldats de la Grande Guerre, parce que j'ai consacré 3 romans qui traitent de la Grande Guerre, pas forcément du conflit lui-même, mais des conséquences du conflit. Quels poètes ont été touchés, écrivains, on a perdu, enfin tous ces parcours. Et j'ai été extrêmement touchée devant un paysage qui avait été marqué par la guerre tout près d'ici. De voir une inscription d'elle sur l'oubli, la mémoire, la façon de penser à ces hommes, la façon dont on les aime. Je crois que c'était vraiment quelqu'un qui portait, qui avait le sens de l'histoire comme très très peu d'écrivains l'ont eu. Et ça, c'est aussi une rencontre avec le lieu pour moi, compte beaucoup. J'adore les lieux chargés d'histoire. Pour moi, le temps, ce n'est rien. 50 ans, 100 ans, ce n'est rien. Et elle savait voir le temps avec cette dimension. Si vous voulez, c'est pas un hasard non plus si on est là. C'est-à-dire que on aurait pu ne pas faire ce qu'on tente de faire. On le réussit plus ou moins. C'est toujours un travail. On a toujours peur. On doute. On ne sait pas où on va. Et c'est cette sensibilité toujours à l'œuvre qui est une forme de fidélité aux forces de l'enfance. Et c'est très important pour moi, ça. Je me dis toujours, quand je dois prendre une décision, ne te laisse pas facilement influencer par des arguments qui ne sont pas bons. N'oublie jamais, je me dis ça, je vous le dis franchement, la petite Gisèle. Et quand je vois Marguerite Yourcenar, je me dis, cet esprit libre qu'elle a toujours pratiqué, c'est peut-être ce qu'il faut qu'on garde et ce que j'ai, moi, à ma mesure, essayé de garder.
Que ça vous fait d'avoir été choisie ?
Oui, évidemment, on doit le dire, on est très content parce que c'est toujours, on n'est jamais sûr qu'on sera choisi. Vous savez qu'il y a énormément d'écrivains qui postulent. Et comme la villa est à vocation européenne, il y a énormément d'Européens. Donc le pourcentage aussi d'élus pour nous est assez faible. Donc j'étais très très contente et je pense que Hachmi Allé, les membres du jury, ont aussi beaucoup aimé un dernier livre pour adultes que j'ai écrit, La ferme de Navarin, qui traite de Sandrard et aussi d'Apollinaire pendant la Première Guerre, qui va dans le sens d'un esprit, enfin qui rencontre une sorte d'esprit qui anime les lieux ici. Je suis contente et je reste contente parce que c'est une très très belle occasion de s'accorder un temps, c'est très rare. Vous savez, une chambre à soi, comme disait Virginia Woolf, on ne l'a pas si facilement que ça dans la vie aujourd'hui pour écrire, ça reste difficile.
Dans les vagues brisées du Gulf Stream, Marguerite écrit, Marguerite lit les vélins jaunis des Romains pour écrire les mémoires d'Adrien.
Je m'appelle Minassif, je viens de Marseille, je suis une méditerranéenne. Mes parents sont marocains d'origine du sud du Maroc, ce sont des berbères du sud du Maroc. Mon père est d'Agadir et ma mère est de Tiznit. Et moi je suis née en Corse, à Propriano, où mes parents sont arrivés, mon père dans les années 50 et ma mère dans les années 60. Et voilà, donc ma langue maternelle est le berbère. Et j'ai parlé très tôt le berbère, le corse, le français et l'arabe dialectal après, par la suite, lorsque nous sommes arrivés à Marseille. C'est-à-dire quand j'ai eu 9-10 ans, on est venu vivre à Marseille.
Comment a démarré l'écriture ?
Eh bien, d'une certaine manière, l'écriture a toujours fait partie de ma vie. Ça semble paradoxal, mais en fait, je suis une enfant d'immigrée. Et il faut savoir que les enfants d'immigrés, à un moment donné, il y a une nécessité de devenir traducteur et interprète de ses parents. Mes parents sont analphabètes, donc très tôt, comme la plupart de mes congénères, j'ai traduit pour mes parents, j'ai écrit des courriers pour le Maroc et ailleurs, des courriers administratifs, j'ai accompagné mes parents. Donc j'ai toujours été un enfant qui passe d'une langue à l'autre, c'est-à-dire un passeur. Après, l'écriture est arrivée par la lecture. J'ai énormément lu. Il n'y avait pas de livres à la maison, il y en avait à l'école. Donc j'ai eu cette chance extraordinaire de rencontrer sur ma route des professeurs qui étaient des guides. Donc ces gens-là m'ont fait lire.
Est-ce que vous connaissiez Marguerite Yourcenar ?
Oui, je connais Marguerite Yourcenar. J'avais un professeur de français qui était passionné par Marguerite Yourcenar. Donc, je l'ai lu à l'adolescence. Et en fait, j'étais totalement frappée par son destin de femme. C'est quand même une femme qui s'est battue tout au long de sa vie pour préserver ce territoire extraordinaire de l'écriture. Et elle a fait ça avec une force et une constance que moi, j'admire. Voilà, donc j'essaye, à mon niveau, moi aussi, d'établir un chemin de l'écriture avec, je l'espère, une constance aussi ferme que la sienne. J'ai quand même conscience d'un privilège extraordinaire, parce que je vais passer 2 mois ici sans me préoccuper de mon travail, parce que je travaille dans la vie courante, je ne vis pas de l'écriture, j'anime des ateliers d'écriture. Et donc voilà que 2 mois de ma vie vont être totalement et absolument consacrés à l'écriture au quotidien, dans un cadre tout à fait exceptionnel. Vous le voyez, moi je viens du Sud, je suis une enfant, une femme dont la vue a toujours été barrée par un rideau bleu. Aussi bien en Corse, donc la mer, au Maroc, Agadir, la mer aussi, et puis évidemment Marseille, la mer. Et là, en fait, sous mon nez, j'ai un rideau vert, ce qui transforme complètement mon regard, et je trouve ça très intéressant, parce que ça me trouble, ça me déstabilise, cette immense trouée de vert, cet immense paysage verdoyant. C'est un océan de sérénité. Je vous avoue que tous les jours, je me promène, chaque matin, et j'en reviens pas d'être là. Et en plus de partager ce quotidien-là avec deux autres femmes de talent qui sont Gisèle Bienne et Eugénia Almeida, et d'être là, trois femmes, dans une position de femme en train d'écrire, c'est rare. Et donc on est chacune dans ces préoccupations-là de l'écriture. C'est quelque chose qui me touche profondément.
Est-ce que ça vous donne des idées pour un prochain livre ? Est-ce que ça vous inspire ? Vous utilisez ce moment à bon escient pour quelques projets ?
Je travaille à la correction de mon second roman. Je me suis lancée dans une aventure. L'écriture, déjà, est pour moi une passion et une aventure. Je me suis lancée dans l'écriture d'une trilogie sur Marseille. Bon, Pagnol avait la sienne. Iso, le merveilleux Iso a eu aussi la sienne. Et pourquoi pas moi ? Sauf que la différence, c'est que ma trilogie se déroule à partir d'un lieu emblématique pour moi, qui est la Porte d'Aix, qui est donc l'Arc de Triomphe qui surplombe la ville et qui en même temps est indicateur d'une chose extrêmement importante pour moi, c'est l'entrée et l'arrivée des gens dans Marseille. Donc, c'est-à-dire l'entrée et l'arrivée des immigrés qui arrivent soit par le port de la Joliette, soit par la gare Saint-Charles, soit par l'autoroute. Donc c'est aussi pour moi la capacité à expliquer par des mots, par l'écriture, cette diversité culturelle et multiculturelle que nous avons à Marseille et que nous avons aussi dans le monde, parce que nous allons vers ce monde de la diversité et du multiculturel dont je suis faite.
Qu'est-ce qui vous guide dans votre vie littéraire, votre vie tout court ?
Alors, ce qui me guide dans mon histoire avec l'écriture, c'est mon rapport intime aux langues. À la langue, d'abord la langue maternelle, qui est donc pour moi le berbère, et qui est une caisse de résonance avec toutes les autres langues. Une femme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marie-Rose Moreau, qui est pédopsychiatre, c'est une femme qui s'intéresse énormément aux enfants de migrants et qui dit cette parole extraordinaire, on apprend à parler dans sa langue maternelle. Donc c'est aussi une capacité à dire que la langue maternelle structure les écoles, et à partir de cette langue maternelle, comment on peut accueillir les autres langues qui font partie de notre imaginaire. Et donc, voilà, donc dans mon écriture, j'intègre tout cela d'une manière mais totalement intime. Patrick Chamoiseau parle d'imaginaire polyglotte. Donc, j'essaye d'amener ça dans mon écriture, parce que je suis faite de toutes ces langues, le berbère, le corse, l'arabe dialectal, le français. Toutes ces langues-là de l'enfance m'imprègnent totalement et je ne peux pas imaginer écrire sans leur appui, sans indiquer cette chose extraordinaire, c'est-à-dire comment, avec ces langues, je peux me relier aux autres. C'est ça, en fait, c'est comment me relier aux autres, comment être passeur.
Une dernière question, comment vous voyez votre avenir ?
J'écris, donc j'aimerais beaucoup, beaucoup et totalement même continuer à écrire.
Et vous écrivez pour qui ?
J'écris pour moi. Et puis, j'écris aussi pour me dire que j'existe.
Je m'appelle Eugenia Almeida et je suis une écrivaine de l'Argentine.
Est-ce que vous connaissiez la villa ?
Oui, j'ai connu la villa l'année dernière. Je suis invitée au festival. en juin. Et mon regard sur France, c'est très complexe parce que c'est un pays qui fait un travail formidable avec la culture. Et je trouve qu'être ici pour écrire, je suis venue d'un pays qui est très très loin. Et que trouver cette chance dans un pays comme la France, c'est formidable. Mais ces regards changent presque tous les jours.
Vous avez été choisie parmi des milliers de postulants. Ça doit vous faire plaisir ?
Oui, beaucoup de plaisir et aussi les surprises. Et parce que je crois que j'ai beaucoup, beaucoup de chance. Et il y a beaucoup de candidats très, très talentueux, avec une carrière formidable et le bouquin formidable. Donc je suis très heureuse d'être ici.
Dans une île perdue de l'océan, Marguerite écrit. Marguerite vit.
Vous en profitez pour faire quoi ?
Pour faire une vie formidable. Je me réveille, j'ai écrit. Et sans penser à rien plus qu'écrit, je lis beaucoup. J'ai essayé de travailler mon français avec la lecture. Je parle beaucoup avec les autres écrivains qui sont ici en résidence. Et je fais les rencontres avec les élèves, les journalistes, les librairies. Donc je suis très heureuse de rencontrer tout type de gens.
Est-ce que vous êtes en train d'écrire un nouveau livre ?
Oui, je suis en train d'écrire mon troisième roman qui s'appelle Cuerdas, veut dire corde. Je crois, je ne sais pas, mais j'espère que je peux finir le roman ici parce que j'ai trouvé un rythme de travail vraiment formidable ici.
Vous nous parlez de votre premier roman, L'autobus, qui a eu un beau succès en Argentine, mais aussi en France et ailleurs.
Oui, l'autobus, c'est une petite histoire dans une petite ville en Argentine pendant les années de la dictature. Il parle de la dictature, mais d'une façon différente parce qu'il parle de les gens communs. Il ne parle pas de la junta militaire, veut dire les militaires qui ont tué 30 000 Argentines. Je suis très heureuse et aussi très surprise pour l'accueil qui a trouvé ce livre ici en France. Le livre a obtenu un prix en Espagne, donc ça prix, c'est les raisons qui ont permis de publier ici en France et aussi en Grèce, au Portugal. Mais je crois qu'en France, ça a été le pays qui a accueilli mieux ce petit livre, donc je vous remercie.
Qu'est-ce qui vous pousse à écrire ? Quelles sont les raisons qui vous donnent envie d'écrire ?
Tout le merveilleux livre que j'ai lu. Quand je lis, je comprends que ça, il y a quelque chose de magique qui permet les rencontres entre les gens. Et j'ai essayé de faire sa chose. Je ne sais pas si je le peux faire, mais j'ai continué à écrire comme un chemin pour trouver les autres, rencontrer les autres.
Est-ce que vous connaissez et connaissiez la littérature française et Marguerite Yourcenar ?
Oui, bien sûr, en Argentine, la culture française est très très importante. Quand nous sommes nés comme pays, le choix a été laissé à l'Espagne pour trouver en la France le chemin à faire. Et donc, tous les écrivains plus connus français sont très, très connus en Argentine et nous sommes très fiers de cette littérature. Et j'aime beaucoup d'écrivains français et Marguerite Yourcenar est, c'est pour moi une dame très, très importante. J'ai lu son livre. Je ne lis pas encore tous ses ouvres, mais je crois que je chercherai le temps. Mais il y a quelques livres qui sont vraiment formidables. Je pense à Alexis. Et je ne dirai pas tout le titre en français parce que je le pense en espagnol. Alexis, ou El Tratado de l'Inútil Combate. Et je pense à Mémoire d'Adrien. Je pense à Le Dinar de Rêve. El Dinario del Sueño en espagnol. Ah, il y a beaucoup. Hein. Il a fait un travail formidable. Être ici, dans le lieu où elle... Arrandis, ça me touche.
une île perdue de l'océan. Marguerite écrit, Marguerite vit. Elle revient en France de temps en temps. Signé Yourcenar, ses romans. Elle revient en France de temps en temps. Signé Yourcenar, ses romans.
Hachmialé, nous nous trouvons aujourd'hui sur la terrasse de cet incroyable domaine qui surplombe une vallée qui s'appelle le Mont Noir. Pourriez-vous nous introduire à ce domaine, à cette villa que vous nommez donc Marguerite Yourcenar, ici même au Mont Noir ?
Oui, bien sûr. Alors, on est sur le Mont Noir qui est l'un des 7 monts de Flandre. On est à 40 km de Lille, on est dans le département du Nord, où la famille de Criancourt, puisque Marguerite Yourcenar, avant de s'appeler Yourcenar, qui est un pseudonyme, était issue d'une grande famille de la Flandre française, qui possédait ici, jusqu'au début du XXe siècle, un grand domaine, avec un château qui malheureusement a été bombardé, détruit à la Première Guerre mondiale. Mais il est resté plusieurs, j'allais dire, dépendances, et la villa Marguerite Yourcenar a été reconstruite après la guerre sur une des dépendances. Le Mont Noir, c'est donc, on est aussi qui est devenu donc parc Marguerite Yourcenar, géré par le Conseil général du Nord, villa Marguerite Yourcenar, résidence européenne d'écrivains, et était le lieu où Marguerite Yourcenar a passé une partie de son enfance, et dont elle a parlé dans plusieurs de ses œuvres, entre autres Archives du Nord, des beaux souvenirs qu'elle avait de son enfance ici, au milieu de la nature. Une enfance, c'est vrai, privilégiée, puisque Marguerite Yourcenar était issue d'une famille de la petite noblesse française, des Flandres françaises, mais elle a vécu ici avec son père, puisque sa mère est morte à sa naissance, et elle a gardé de très beaux souvenirs, et c'est ici où elle a appris, a-t-elle dit régulièrement, à aimer la nature, le rapport avec les animaux, etc. Ce qui fait que plus tard, elle a beaucoup milité, elle a été une sorte de pionnière de l'écologie. Et c'est après sa mort que le Conseil général du Nord a décidé de racheter tout le domaine et d'en faire un lieu dédié à la fois à la protection de la nature, puisque nous sommes sur un site protégé. Et comme il y avait cette très belle villa, qui a été nommée Villa Marguerite Yourcenar, en hommage à un écrivain, on accueille toute l'année des écrivains qui viennent ici en résidence, j'allais dire se ressourcer, écrire, j'allais dire, dans l'ombre de Marguerite Yourcenar.
Alors, cette résidence, comme vous l'avez dit, propose d'accueillir des écrivains. Vous pourriez nous parler du programme et nous expliquer comment se fait le recrutement ?
Voilà. Alors, en fait, la Villa Marguerite Yourcenar, comme résidence d'écrivains, existe depuis 1997. Elle accueille chaque année une quinzaine d'écrivains qui viennent de toute l'Europe et j'allais dire même au-delà de la francophonie. Ce sont des écrivains qui sont recrutés par un jury indépendant. Chaque année, nous recevons une centaine de dossiers d'écrivains anglais, espagnols, italiens, argentins, enfin du monde entier souvent. Et ce jury sélectionne sur dossier.
Qui fait partie du jury ?
Alors, ce sont des journalistes, ce sont des écrivains, ce sont des spécialistes de littérature qui sont complètement indépendants et qui, depuis des années, sélectionnent ces jurys. Nous avons, si je peux citer quelques noms, des personnalités comme Jacques Duquesne, qui fait aussi partie du jury interallié. Nous avons quelqu'un comme Christiane Baroche, qui est une nouvelliste, qui fait partie de la Société des gens de lettres. Nous avons des critiques littéraires comme Gilles Ray, qui travaille à Télérama. Nous avons des gens très divers qui se réunissent chaque année au mois d'avril et qui examinent ces dossiers. Et ils sélectionnent les 15 meilleurs écrivains, enfin 15 dossiers qui leur semblent le mieux convenir pour une résidence qui est de 1 mois à 2 mois selon le projet d'écriture des auteurs.
Alors évidemment, on a une question qui nous brûle les lèvres. Qui est donc passé par là ?
Alors, depuis la création en 97, j'allais dire, il y a plus de 160 écrivains qui sont venus. Il y a des noms tout à fait prestigieux. Je citerai un écrivain comme Charles Juliette. J'allais dire, il y a des académiciens. Il y a 2 académiciens qui sont venus en résidence avant d'être élus à l'Académie française. Ce sont François Cheng et Philippe Bossan qui ont fait des résidences. Mais il y a des écrivains comme Philippe Noguez. Qu'est-ce que je pourrais citer comme Sylvie Germain. Enfin, des noms qui forment la littérature, qui sont aujourd'hui des grands noms, et qui sont venus ici s'inspirer, écrire pendant 1 ou 2 mois à la Villa Marguerite Yourcenar.
Est-ce que ce n'est pas un casse-tête, Hachemi, pour trouver et recruter les écrivains? Parce qu'il y a tellement de gens de talent aujourd'hui, surtout dans le monde.
C'est le travail du jury, et donc moi je ne fais pas partie du jury, on a décidé, moi je suis directeur de la Villa, c'est un jury vraiment indépendant qui décide. Pour eux, c'est vrai que chaque fois que j'assiste aux réunions de délibération, et bien sûr, ils doivent en choisir 15, et souvent il y en a plus que 15 qui pourraient, mais ça c'est les lois, j'allais dire, comme pour toute situation, de la sélection, etc. Et il y a souvent d'ailleurs des écrivains qui n'ont pas été pris, et qui reposent leur candidature un ou deux ans après, parce qu'on a le droit, si on a été refusé, de reposer sa candidature un ou deux ans après, mais il faut avoir écrit une nouvelle publication.
Alors, en ce moment, pouvez-vous nous dire qui sont les écrivains en résidence en ce moment à la Villa du Mont-Noir ?
Alors, en ce mois de mai 2010, nous avons justement trois écrivaines, qui sont trois écrivaines, j'allais dire, de générations et d'univers très, très différents. On a Gisèle Bienne, qui est une romancière française, bien connue, dont on avait parlé dans les années 70 avec un best-seller qui avait fait parler d'elle au titre un peu provocateur, mais qui était resté dans l'édition Marie Salope, et qui est une écrivaine qui a écrit de très beaux romans et dernièrement un très beau livre chez Gallimard dans la collection L'un et l'autre autour de la figure de Blaise Cendrars. Il y a également une autre romancière marseillaise, une plus jeune romancière qui s'est fait remarquer il y a quelques années avec un très beau premier roman, c'est Minassif, qui avait publié Méchamment Berbère aux éditions Ramsay, et qui est en train, à la Villa, de travailler sur une trilogie autour de la mémoire de Marseille, de sa culture plurielle, du mélange des langues, puisque c'est un écrivain qui est originaire une famille qui est originaire du Maroc et qui s'imprègne du métissage des cultures. Et on a une jeune, toute jeune écrivaine qui vient d'Argentine, donc on sort de la France et on voyage en Amérique latine, qui a publié deux très beaux romans aux éditions Anne-Marie Métellier. C'est Eugenia Almeida, qui s'est fait remarquer par son premier roman, qui a eu un grand prix en Espagne, qui a été traduit à plusieurs langues, L'Autobus, et qui vient de publier juste ce printemps chez Anne-Marie Métellier son deuxième livre qui s'appelle La Chambre du Fond. Donc en ce moment, puisque nous avons trois studios à l'intérieur de la Villa, elles occupent chacune un des studios et elles travaillent à leurs prochains romans, à leurs prochains écrits à la Villa Marguerite Yourcenar.
Vous avez donc écouté les trois écrivains, trois femmes écrivains de grand talent, admises parmi de nombreux postulants en résidence à la Villa Marguerite Yourcenar, Gisèle Bienne, Minassif et Eugenia Almeida, d'origine et de générations différentes. Et vous les avez écoutées, touchantes, avant Hachemi Allé, le directeur de la Villa, qui nous parlait de cette incroyable demeure entourée d'arbres et de jacinthes, si chère aux yeux et au cœur de Marguerite Yourcenar.